Morgane Cadignan, Fanny.
Salut toi.
Mais alors, grande folle.
Oh là là, Nani.
Tanguy Passion et là également Daniel Morin et notre invité Charlotte de Turquay.
Oh oui.
Nous allons parler d'une cure, d'amincissement, d'une thérapie de jeûne. Qui a déjà fait des jeûnes?
Moi,
jeûnes
48 heures, quoi.
Des petits, des 3 jours.
Ouais.
Mais c'est déjà... franchement, tu le sens
non,
pas.
Mais moi, j'irais bien faire ça, jeûne randonnée, tu sais.
Oh, génial.
On le fait ensemble.
On le fait ensemble.
Allez. Moi, une fois, entre un déjeuner et un dîner, j'ai rien bouffé. J'étais pas bien.
Toi, c'est mon rôle modèle, Tanguy.
Et t'as jamais jeûné, toi?
Jamais,
Fanny,
évidemment.
Jamais?
Mais bien sûr que non.
C'est dommage parce que c'est le blind test.
Ah, ah zut. Super. Tanguy?
Oui.
C'est pas Jean-Jacques Goldman?
Si.
Pourquoi? C'est quoi le test? Ah non, Frédéric Goldman Jones, pardon.
C'est Frédéric Goldman Jones.
Oui, il a menti.
Oui.
Oui, qu'est-ce qu'il ça va. 10, 11, 12, rien n'y a de blues. Qui chante ça?
Tanguy,
Fanny.
C'est Blur.
Oui.
Ils chantent tout.
Quel rapport avec le jeu?
Oui, je trouve toujours pas.
C'est le 2.
C'est quoi?
C'est le 2.
Mince alors, 2.
Pourquoi 2?
1, 2, 3.
Le numéro 2.
Ah. Ouais, comme tu veux.
Tout c'est bien trouvé.
Avec mince, j'avais pas grand chose. Avec alors, j'avais Big Foy Oli, si tu veux.
Ouais.
Donc voilà, j'étais un peu limité. Ouais.
Morgana!
Non, Morgane.
Tupac.
Oui. Ça donne pas envie d'aller danser, ça.
Les boîtes sont fermées.
Danser assis avec juste les bras. Pour réceptionner les bouteilles.
Se tirer dessus aussi. Se tirer dessus.
Ouais, aussi.
Je suis allé prendre un verre hier dans un troquet. Je suis obligé de balancer parce que c'était un truc hallucinant. Donc, discussion. Et puis à un moment donné, il met de la musique un peu fort. Et il y a trois jeunes filles qui se mettent à danser. Et là, je fais la vanne, je vais appeler la police. C'est pas possible, c'est pas légal. Il me dit non, ce sont des danseuses professionnelles. Et elles ne font que leur métier. J'ai trouvé le sens de la répartie.
Vous allez dans des bars un peu spéciaux.
Mais moi aussi, je vais devenir pro là d'ici la fin de l'année.
Oui. Mon passe-pro.
Tanguy,
oui, non, Tanguy.
Just the Two of Us.
Oh, yeah.
Mais Bill Withers.
Ouais, ouais, c'est ça.
Grover Washington. Ah. Enfin, non, ça c'est Bill Withers. T'as raison. Ça, c'est la version Bill Withers.
J'ai douté à l'espace d'un instant.
C'est pas ton genre.
Non. Ça, j'aime bien.
Qu'est-ce que c'est bon, ça.
Ah, même avec Cambrai, là, on sent Hollywood, quoi. Ouais, quand on écoute ça. On prend sa voiture.
Ouais, il faut quand même fermer les yeux.
Ah, oui, oui, oui. La fenêtre.
Qui chante ça? Ça, c'est plus pointu.
Ah.
Je pense même que j'aurais dû le mettre en banco. Ouais, ça sent... Peut-être que vous... Avec...
Oh là là.
Avec la voix... Vous...
Voilà.
C'est un sacrifice.
C'est diabolique. Écoutez la voix.
Voilà. C'est quoi ce truc?
Merci. Hein.
C'est super connu.
Ah bon?
Un album qui s'est vendu, mais des millions d'exemplaires.
Daniel? Frankie Ghost?
Mais oui, oui. C'est sur cet album où il y avait Relax, où il y avait Born to Run aussi, une version la plus...
Wow. Sur cet album, il y avait des chansons qu'on connaissait, quoi. Mais c'est
qui chante ça?
Tanguy,
Morgan,
YouTube, bien sûr, One.
Pardon,
One. YouTube, One.
Non.
Bon. Résumé, le contenu de tes coloriages.
Ah oui, j'attends.
Résumé, 4 points pour Tanguy, 1 pour Morgan, 1 pour Daniel. Leïla, Fanny.
Moi, je suis là pour écouter.
C'est un vrai jeune, hein. Attention, c'est le dernier titre.
C'est le Super Banco.
C'est le Super Banco.
Eh ben.
Et il est très facile.
Ah.
Très facile.
Oui.
Je veux le prénom, s'il vous plaît. Enfin, le vôtre.
Oui.
Puis la réponse. Que lorsque je vous dirai oui, une telle ou un tel. Attention, pas de triche. Sinon, un gage.
Daniel.
Neyla.
Daniel.
Joséphine Baker.
Bravo.
Baker.
Et voilà, c'est Daniel qui a gagné.
C'est ça, tu as bien résumé la situation.
Si vous avez besoin d'infos, demandez-moi. Hein.
Exactement. Victoire de Daniel.
Oh, sur Joséphine Baker, c'est chic.
Il reste un blind test demain encore. Et merci d'accueillir Charlotte.
Mais bonjour. avec Nagui.
Charlotte, qui a la gentillesse de venir. Bonjour Charlotte, bienvenue.
Bonjour Charlotte, je suis contente de vous revoir.
On s'était parlé à distance de l'Afghanistan et vous aviez gentiment accepté de témoigner. Maintenant, parlons de choses plus joyeuses et souriantes.
C'est pour femme afghane.
Avec, exactement, avec Mince alors, le deuxième volume, j'ai envie de dire, si vous me passez
cette petite blague rigolote, si j'apprécie beaucoup.
Fin de cette émission. Ah, okay, d'accord.
Je souhaiterais qu'on cut ce morceau et qu'on le ressorte à chaque fois que
j'ai envie
Nagui
de dire,
fait
vous
une
êtes très
lue.
En forme, Nagui.
Oui, allez, c'est parti.
Compétition.
Animateur de poids.
Mince alors, le très bon film, parce que je me suis vraiment marré, d'autant que oui, c'est une comédie, oui, il y a des histoires humaines intéressantes, mais surtout, en toile de fond, cette idée de jeûne et de régime et de cure amincissante, d'abord, ça existe réellement, ce genre de stage, je sais pas comment il faut dire, de cure, oui, c'est ça.
Oui, j'en ai fait plein, qui n'ont pas été très efficaces, mais oui, j'en ai fait. Merci de rire, c'est toujours très. Ça me touche énormément.
Parce qu'il faut savoir, elles ont sûrement été efficaces, mais peut-être que ça ne dure qu'un temps.
C'est ça le problème de ces régimes, c'est qu'en fait, ça marche très efficace, mais ça tient pas sur la longueur.
Ouais, c'est pas tenable.
Et ces cures, oui, ça existe. Et moi, j'en ai fait beaucoup, enfin, quelques-unes en tout cas. Et c'est vrai que j'avais envie aussi de montrer que si ça doit marcher, c'est vers là qu'il faut aller. C'est-à-dire une espèce de réconciliation quand même avec soi-même, quelque chose qui se passe dans la nature aussi, parce que le régime, on vous met tous à 1200 calories, quelle que soit la personnalité, ça peut pas marcher.
Alors, c'est amusant parce qu'on a le sentiment que vous y connaissez, ou alors que vous avez pris un conseiller nutrition pour le film.
Non, je crois
parce qu'il y a beaucoup de conseils donné dans le film.
Ah, vous trouvez ?
Ah bah oui, moi je découvre par exemple que si on prend un repas très traditionnel et qu'on y ajoute à la fin un dessert fort en sucre, on double la quantité de... Ça je savais pas du tout.
Ah oui, c'est pas des conseils que je donne, c'est plutôt des infos. Ce que j'aime bien, c'est faire une sorte de constat, c'est-à-dire de montrer.
Je prends plus de glace au dessert à cause de vous.
Mais du coup je fais qu'un repas de glace.
Non mais cela dit, ça par exemple...
Je mélange pas.
Non mais en plus, si vous mangez par exemple longtemps après le repas, vraiment vous faites le goûter, le fameux petit goûter. Oui. Et ben ça, c'est pas idiot, mais il faut manger à ce moment-là que du sucré, loin des repas, et pas mélanger avec du salé.
Non, il y a un conseil que j'ai entendu il y a plusieurs années de la part d'un nutritionniste et que j'ai retrouvé pour la première fois dans le film. Il faut mâcher longtemps et beaucoup, la digestion commence dans la bouche.
Absolument, absolument. Et en fait,
ça, c'est un vrai conseil de tout vivre, ça.
Oui, c'est un vrai. Il faut manger lentement et bien mâcher parce que le cerveau met à peu près 20 minutes à comprendre qu'il est rassasié. Donc, si vous mangez vite, en fait, vous allez avoir une sensation de. J'ai l'impression d'être nutritionniste.
Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti.
Vous êtes habillée comme une nutritionniste. Vous dans le cabinet.
Ah bah,
Elles sont chics.
Cela dit, c'est vrai que Bicot est tellement maintenant. J'ai tellement étudié la question que je pourrais effectivement.
C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est pas simplement une comédie. Alors, encore quand je dis simplement, c'est bien compliqué de faire des comédies, mais c'est pas une comédie de plus dans le paysage cinématographique. Il y a j'ai envie de dire deux lectures, presque un côté reportage au sein d'une cure où on se dit que finalement ce n'est pas tout est avec un trait grossissant pour la vanne évidemment pour qu'on reste dans la comédie. J'étais pas sûr du mot très grossissant mais
tu l'as dit quand même.
Avec le recul je me dis même c'est pas bienvenu.
Non mais ça va bien avec le film au contraire.
C'est ça, merci. mais donc quand je disais il y a une autre lecture, c'est que tout est vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait, comme certains films policiers ou thrillers ou certaines fictions, dire au début, à partir d'une histoire vraie.
À partir d'une histoire vraie. Et puis, j'ai envie de dire aussi qu'à partir de toutes les histoires vraies, des gens qui jouent dans ce film, parce que, évidemment, ce sont des acteurs.
Catherine
Osmalin, dedans, qui a Lola Devers, Marc Rizzo, tous ces gens-là
ont un rapport particulier aussi à leur corps. Je vais
Catherine a perdu énormément. Et c'est une scène du film, et en disant vous avez vu, j'ai réussi, j'ai perdu énormément. Elle a perdu beaucoup de kilos, puisqu'elle a même perdu les 75 ou 85 kilos de son mari qui est parti.
Qu'elle a profité pour se barrer. Mais ce qui était vachement intéressant dans le cas de Catherine, justement, c'est que les gens qui perdent vraiment énormément de poids dans la vie, en fait, c'est très compliqué après leur image corporelle, parce que
ils se voient toujours gros,
ou ils pensent que tous les problèmes vont être résolus. Ouais. C'est ça qui est vachement compliqué, c'est que du coup, ils ont perdu énormément de poids, et ils disent, ben voilà, moi, la vie est belle, mais en fin de compte, c'est comme les gens qui partent en voyage avec leurs problèmes, ils pensent que quand ils vont aller à 1000 km, ils n'ont plus de problèmes, mais ils sont toujours là, les problèmes. Mmh. Donc, c'était vachement intéressant aussi parce que à partir du moment où on parle du poids, en fait, dès qu'on s'éloigne un peu, on parle de l'image de soi, on parle de son apparence, de son acceptation. Et en fait, je m'aperçois que c'est incroyable le complexe qu'on a. On est vachement dur avec nous-mêmes. On se critique sans arrêt. On trouve toujours que les autres sont mieux.
Pardon, c'est le regard des autres, c'est la société, c'est le mode de consommation. Tout ça est dur à la base.
Oui, mais ça continue. Je pensais que ça s'était un peu assoupli, quoi.
Non,
c'est quand même vachement dur.
Et alors, maintenant, par contre,
les seuls qui se kiffent, il y en a qui se kiffent. En général, c'est des cons, vous n'avez pas remarqué? les nanas qui se surkiffent, en général, c'est des connasses, non? Et les mecs pareils, c'est des crétins, non? C'est drôle parce que je trouve que.
Charlotte, on peut être bien dans sa peau sans être.
Mais il n'y en a pas d'image, c'est ça que j'allais vous dire. Ou bien les gens ne s'aiment vraiment pas, ou bien ils se surkiffent, mais entre les deux, il n'y en a pas des masses.
On n'est pas obligé d'être jamais content pour.
Non, mais on pourrait être un espèce de juste milieu. Pourrait quand même.
Et puis ça fait du bien de penser des autres que c'est des connards aussi, hein, on va pas.
Ça, c'est autre chose.
Ça fait du bien. Hein.
Et il y a cette tendance dont on parlait avant que vous arriviez dans ce studio, la tendance de la cure de jeûne, de partir faire de la marche en jeûnant comme ça pendant.
Ça marche. Alors ça, pour le coup, sans jeu de mots, ça marche, la marche. Parce que c'est vraiment, je me demande même comment est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt, franchement. Parce que pour aller mieux, on sait maintenant que ça fait un bien fou. Quoi.
Jeûner et marcher, c'est ancestral. Les Grecs n'ont pas attendu les cures de détox.
Depuis les Grecs, après, on a eu Montignac entre les Grecs et ça. On a eu Montignac,
le nom d'un régime très très connu.
Oui, qui est un régime très connu. Ouais. On a eu le tout protéine. On a eu le tout ananas, le tout machin. Et on est
chou.
Il a fallu le fameux tout chou.
Le fameux tout chou. Il y a eu le tout fou.
Non mais franchement, il y a eu toutes sortes de régimes plus déments les uns que les autres. Moi, j'ai même été voir un nutritionniste dont je tairai le nom parce qu'en fait il martyrisait le gars, et on n'avait même pas le droit de se mettre de la crème hydratante parce que c'était gras le visage et que je vous jure, et moi je l'ai cru, hein. On y est allé. Ça m'a coûté une fortune. Et donc, mais il a fallu entre le jeûne.
J'ai eu un copain qui est allé voir un acupuncteur qui fait maigrir, et donc il y avait des séances qui duraient 10 minutes, mais j'imagine à 150 balles la séance d'acupuncture. Et en fait, il n'avait pas le droit de manger, mais de ne pas du tout manger, sauf le soir, une pomme.
Et je lui ai dit,
mais l'acupuncteur n'y est pour rien, c'est juste parce que tu manges pas, tu manges qu'une pomme. Mais ça lui coûtait quand même 150 balles par jour. Et soi-disant, en appuyant sur certains points.
Ça
libérait les graisses.
Sûrement que tout ça aide.
Il y a beaucoup d'arnaques, en tout cas, autour de ces cures, autour des régimes.
Et les trucs qu'on dilue, et les machins. Mais j'ai tout fait.
Mais alors, pour en revenir vraiment au film et à la fiction, elles sont sincères. Les deux qui montent.
Lola Devers et moi, on monte donc cette cure de jeûne et de détox, et on est vachement sincères puisque Lola, justement, dans le 1,
qui est la nièce.
C'est ma nièce, et dans le Mince Alors 1, elle avait fait la cure, elle, justement. Et donc, elles ont décidé de monter quelque chose, mais d'une manière plus contemporaine, peut-être plus efficace.
Et puis, alors, le problème, c'est qu'il y a un masseur,
C'est pas du tout un problème, le masseur.
Le masseur, c'est que j'ai envie de me le faire.
C'est là où ça devient le problème. Il m'a hashtag mitouzé,
Mais en fait, ce que je trouve toujours drôle, c'est quand les personnages sont confrontés, même dans la vie, vie, à nos propres contradictions, oui, à nos propres fragilités. Moi, j'adore le fait que mon personnage soit la directrice de la cure, que je suis naturopathe, donc que j'explique à tout le monde qu'il faut s'accepter tel qu'on est, etc. Mais moi, en revanche, il y a un truc que j'accepte pas du tout, c'est mon âge. Et je fantasme que sur des mecs beaucoup plus jeunes. Et
voilà, ah oui, vous êtes une véritable cougar.
Une véritable cougar.
Sauf incident qui arrive dans le film, on va pas tout raconter, tout dévoiler.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'avec mes deux copines, donc Catherine Osmalin et Lola Devers, ce que j'adore, c'est que, pareil, parce que Lola est devenue naturopathe aussi, ce que j'adore, c'est que quand on a un problème, on boit pas de la tisane, on se bourre la gueule.
Bien sûr. Oui.
Scène donc j'aime bien l'idée.
Extrêmement drôle.
Voilà, on n'est pas parfait.
Voilà. Réalisé par, écrit par Charlotte de Turckheim avec Catherine Osmalin, Lola Devers, vous, Charlotte, et puis...
Charlotte Gassiot.
Exactement.
J'étais pas toute seule à l'écrire.
Marc Rizzo, Patrick de la Valette, Johanna Piaton, votre fille, Barbara Bolotner, Angelina Bertrand Gomez, Sabri Gazala, Brice Vergé-Doucy, Charlotte Debeka, Jean-Marc Otlingos. Voilà, on va citer tout le monde. Et en effet, au niveau de l'écriture, vous avez co-signé avec Gladys Marciano
et Antoine Chomsky.
Comme ça,
pour les dialogues.
Tout le monde a été cité pour ce film qui est extrêmement drôle et réussi, je vous le dis. Mince.
Ah bah je vous remercie.
Alors, le numéro 2. Mais ce n'est pas fini. Moi, je vous passe la pommade un peu comme ça, douce, gentille, pour que vous soyez détendu.
Oui, je sens qu'à droite,
ça vient toujours de la droite. Ça vient toujours
de la droite.
Le corps
naturel. Si Morgane, Camillon, je ne vous aime pas. Je ne sais pas pourquoi elle vous aime pas.
Oh, c'est bizarre. Charlotte de Turckheim, j'ai failli ne pas vous aimer. Mais le deuxième volet du film sort pile à temps. C'est pas passé loin. Je pense que j'ai vu l'ardif du premier environ 65 fois. Il y a certaines chaînes de la TNT. Je pense qu'en film, ils ont Massalor et OSS 117. Et il est passé en alternance. Le pire, c'est qu'à chaque fois, ça pète des scores d'audimat, quoi. On se moque des enfants quand tu regardes 20 fois le même DVD du Monde de Nemo par semaine. Mais on est pareil, en fait. Sauf qu'une fois adulte, tu regardes Catherine Osmalin en bonnet de bain. Et c'est quand même beaucoup plus réconfortant qu'un poisson orphelin qui se paume en Australie. Excusez-moi, mais je l'ai revu il y a pas longtemps. Quand on repense à Nemo, c'est quand même assez sordide cette histoire. Son père désespéré qu'il recherche avec l'eau de poisson bleu qu'Alzheimer, et nous on dit au gosse, oh regarde, il nage le petit poisson, alors qu'il barbote dans la peur de mourir pendant tout le film. Bref, presque 10 ans c'est par les deux volets, et il fallait au moins 10 ans pour se lasser du premier. Au casting, on retrouve Catherine Osmalin et Lola Devers. Leurs personnages ont évolué physiquement toutes les deux, mais aussi psychologiquement. Maintenant, au-delà de la minceur à tout prix, on est dans une recherche de bien-être et de développement personnel. La cure s'appelle jeûne et détox, pile le genre d'endroit où je tiens pas 3 jours, je pense. J'ai beaucoup trop tendance à privilégier les jeûnes tox aux jeûnes détox. Je fais trop confiance au marketing bien-être pour réussir à prendre soin de moi, vraiment. Je mange une raclette au petit-déj, après je bois une tisane avec bien-être ou du foie écrit sur la boîte, et je me dis que mon corps est un temple. Alors que mes organes vitaux, ils sont recouverts de fritures et de fromage fondu premier prix. Oh, fish and cheese, bah non, c'est ma rate. Au-delà de prendre soin de moi, ce film, il m'a surtout donné envie de me barrer dans la nature, ce qui est encore une des meilleures manières qu'on a de prendre soin de soi. C'est fou comme quitter Paris une semaine dans ton corps, c'est l'équivalent de 8 heures de massage crânien continu fait par quelqu'un qui aurait des doigts faits de nuages et d'orgasmes. Mais blague à part, c'est le sujet du film, c'est surtout qu'on n'est peut-être pas plus heureuse en rentrant dans du 36. Alors c'est sûr que quand on est mince, la société s'adapte plus à vous, mais vous n'êtes toujours pas plus adapté à la société qui finalement malmène un peu tout le monde avec son histoire de case. Faut avoir la bonne taille pour rentrer dans la case, puis une fois que c'est fait, après des années et des années à s'auto-insulter parce qu'on a bouffé 3 chocobons, après des décennies à courir comme des dératés pour figer des évolutions d'un corps qui justement est fait pour bouger. Et moi j'ai regardé, les amis, vous imaginez que si je mets bout à bout tous mes footings kilométriquement, je serai en Italie depuis 9 mois et demi. Voilà, suis-je plus heureuse? Pas du tout. Maintenant je m'aime toujours pas, mais avec des tendinites. Mais ma vie reste le dernier Koh-Lanta, un vaste jeu où tout le monde triche et où personne ne sortira gagnant. Heureusement, parfois il y a de la pizza. Mais des années à lire des bouquins sur le bien-être écrits par des gens qui sont sous Témesta depuis 20 ans. Ouais. Votre film, il raconte surtout qu'au fond, le seul truc qui va nous sauver, c'est de tous bien se marrer ensemble dans des endroits un peu jolis. Et si la case est trop petite pour qu'on tienne tous dedans, avec un peu de chance, mon cul est assez large pour l'agrandir.
C'est exactement ce que vous dites.
Vous avez un problème, Morgane a la solution. Oh et Morgane, on te retrouve sur scène ce soir, demain, samedi, et ensuite à la rentrée,
en tournée.
En tournée dans toute la France.
Et le monde. C'est une dernière avant la tournée mondiale.
Exactement.
Mais c'est vrai que dès que tu rajoutes du fromage fondu sur quelque chose, c'est meilleur.
C'est pas bon, c'est que c'est ça qui est bon. Hein. Si on essaye de s'en empêcher, c'est que.
C'est ça. C'est vrai que vous avez évoqué votre amour dans le film des jeunes, alors que vous organisez un jeûne. Et d'ailleurs, je me demande si l'exercice, parce que le mot n'est pas simple.
À dire.
Oui, il faut bien.
Mais c'est obligé, un espèce de truc assez moche du nez, qui vaut faire jeûne, un comme jeûne. Ça, ouais.
C'est déjà austère.
Il faut l'appuyer, en tout cas, pour bien qu'on le comprenne. Mais ce que l'on comprend surtout, et là où je suis totalement d'accord avec Morgane, c'est que l'idée de la marche, vous dites, elle est pas nouvelle, elle est ancestrale, on a toujours,
mais c'est génial.
Cette idée-là, mais ça donne envie, en tout cas. Mais à la fin du film, en sortant de la salle, je me suis dit, mais j'ai envie d'essayer. Le jeûne.
Le jeûne.
Alors je sais pas
avec
si
marche.
Jeûne et randonnée.
Jeûne et randonnée.
Oui, mais je crois que ceux qui le font, ils le font genre plusieurs semaines. Là, je suis pas
non,
sûr de tenir.
Tu fais 5 jours.
Non, vous pouvez faire, vous pouvez faire 3 jours. Là aussi, il faut arrêter de se dire il faut j'ai l'impression que c'est horrible.
Docteur.
Mais non, mais 5 jours c'est bon. Si vous le faites que 2 jours, c'est super. Si vous le faites un mois, c'est bien. Si vous le faites
vous avez fait ça vous un mois?
Non, moi j'ai jeûné, le maximum que j'ai fait c'est 11 jours sans et un peu marcher, mais pas assez.
Non, on est obligé de manger un petit peu quand même.
Mais le mieux,
non. Alors, Charlotte,
bouillon. Du tout.
Moi, j'ai fait ça 14 jours, exactement.
De rien manger du tout.
Rien du tout. Que de l'eau. Même pas de thé, de café, que de l'eau.
Ah, oui, c'est ça, moi aussi.
Pendant 14 jours.
On pas mal au crâne.
Est-ce qu'on est d'accord avec? Alors, justement, on va comparer
faut
nos jeûnes.
Suivi médicalement, il faut le dire quand même, que c'est dangereux. Non, non. Il faut dire qu'on n'entame pas des jeûnes comme ça. C'est encadré. Imagine, il y a quelqu'un qui fait ça.
On ne peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain.
Elle n'est pas médecin, elle n'est pas nutritionniste, elle n'est pas naturopathe en vrai. C'est Charlotte de Turquie.
Merde, elle m'a démasqué. Oui, voilà, exactement.
Au bout de. Je suis d'accord avec Daniel. Au bout de. Le deuxième jour, il y avait une espèce de mal
à la tête.
Exactement.
Ouais, horrible.
Mais comme si. Comme la fois où j'avais arrêté le café d'ailleurs, comme si il manque un truc, ton corps reçoit un signal en disant il manque quelque chose pour que j'aille bien.
Non, faut faire gaffe, franchement c'est vrai.
Et le quatrième, cinquième jour, difficile, mais ensuite, je sais pas si vous l'avez vécu vous, une espèce de boost,
de
pêche, est d'accord? C'est incroyable,
ça. Alors, c'est incroyable. Alors, maintenant, moi, je referai plus de jeûne, si ce n'est pour faire une espèce de reboost des cellules. Enfin, bon, là, on va partir dans un truc un peu chiant. Mais en tout cas, moi, je le déconseille fortement si on veut maigrir. Ah oui. Parce que ça ne, parce que vous allez vachement maigrir et vous allez reprendre tout derrière parce que le corps est vachement moins il a une mémoire.
Pas que derrière, ça peut être sur les cuisses aussi, sur le ventre.
Non, puis il a une mémoire.
Ça, c'est fait.
Non, bien sûr.
Donc, mais en revanche, aller dans la nature et marcher dans la nature et surtout dans une belle et grande nature.
T'étais où d'ailleurs vous le film parce
en
que
Provence,
super
en Provence,
décor.
En Provence du côté de Mossane, Fontvieille, au bout de la chaîne où il y a des mais il y a des tas d'endroits en France extraordinaires.
Super beau. On n'a pas parlé du professeur de yoga parce que lui aussi il est un peu homme à tout faire mais tellement drôle.
Tellement drôle. Et surtout acteur incroyable qui appartient à une
troupe qui s'appelle il fait vraiment du yoga parce qu'il est méga souple le gars.
Ah, méga souple. Il est dans un groupe qui s'appelle les Chiches Capons. Je sais pas si vous avez déjà vu. Génial, Chiche Capon. Et Patrick de Valette, c'est marrant parce que pour la petite histoire, pour le film, en fait, il avait 2 jours de tournage au départ. Il faisait le jardinier, je crois. Puis quand il a essayé ses costumes, en fait, la première fois que je l'ai vu, il était en slip. Et quand j'ai vu
c'est bien
corps,
pour un casting.
Et je l'ai vu, en plus, en slip, la tête en bas et les pieds en l'air. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais?
Vous parlez du slip ou de lui?
Non, je parle de lui.
D'accord.
Et en fait, il faisait du yoga en attendant la costumière.
C'est incroyable.
Et je lui ai dit, mais c'est incroyable. Mais c'est quoi ce corps et c'est quoi ces positions? Et en fait, il est yogiste quasiment de métier, ce garçon.
Et puis, il parle un peu comme le dur, le Martin Lamotte de Coco, de Colin Rochaud, un peu.
Ah oui.
Oui, on est un peu comme ça. Voilà, c'est ça.
Alors que dans la vie, c'est un mec hyper vif, hyper dynamique. Et du coup, de 2 jours, il est passé à 3 semaines de tournage.
Et puis, l'autre intrigue du film, au-delà de la vie, j'allais dire, professionnelle, entre ce masseur, ce prof de yoga et la Isabelle et sa nièce qui gèrent tant bien que mal, qui essayent de trouver des financements pour ne pas que l'affaire, voilà, parce que ça reste un business, entre guillemets. Pour
c'est notre première semaine aussi.
Elles ont des dettes, elles ont des attentes, elles ont des rapports avec la mairie et surtout une espèce de contrat périscolaire ou de promesse à faire avec des groupes d'étudiants qui viennent pour faire un suivi ou une cure. Et donc il y a toute cette espèce d'intrigue autour des jeunes qui viennent pour maigrir aussi et qui vont vivre des aventures humaines, amoureuses, ouais, le regard de l'autre. Et là aussi, c'est encore une autre histoire qui vient se rajouter à celle de la cure.
Ben, c'est-à-dire que ça fait partie des curistes, mais cela, c'est vrai qu'elle est particulièrement touchante parce que d'abord, ils sont très jeunes. C'est disons, 17, c'est entre 16 et 18 ans. Et
c'est quatre ados en surpoids.
Quatre ados vraiment en surpoids. Et donc, c'est forcément touchant parce que, justement, ils m'ont fait vachement confiance. Ils sont pas acteurs, ils ont été trouvés en casting sauvage. Ils sont devenus très bons acteurs d'ailleurs aussi, mais c'est quand même une marque de confiance et puis c'est gonflé quoi de leur part parce que là maintenant ils réalisent, ils sont sur toutes les colonnes Maurice et tous les bus de Paris et je me dis dis donc c'est quand même vachement courageux d'avoir fait ça. Mais ils me disent tous les quatre aussi que c'est la première fois que leur poids leur apporte quelque chose de positif.
Oui.
Donc c'était
raison aussi... plus de l'assumer et de se dire finalement faut en faire un avantage pas se cacher.
Et puis tout simplement ils font un film avec ça. Donc pour eux ils le vivent aussi comme à la fois quelque chose de difficile, mais aussi quelque chose de qui leur fait du bien.
Vous avez attendu 10 ans entre les deux films, parce qu'il fallait trouver le bon moment, parce que vous vouliez trouver le bon angle.
Alors pour plein de raisons différentes.
Pas juste faire un numéro 2.
Oh non, j'ai pas envie de faire juste un numéro 2 parce que on peut pas. J'ai pas envie de faire un coup avec ce genre de film. C'est un sujet qui est trop. Qui est trop personnel aussi. C'est intéressant aussi d'attendre un peu parce que la société justement a quand même beaucoup évolué par rapport à ce sujet en bien et en mal.
Parce que le regard des autres est toujours là.
Le regard des autres. Il est un peu différent. Il est plus sur maintenant sur les réseaux sociaux, la télé-réalité.
Les filtres que l'on se fait sur Insta.
Vous connaissez l'histoire quand même de cette nana, cette blogueuse qui a 4 millions de followers. J'ai oublié son nom, mais mes filles la connaissent. La nana, elle explique qu'elle ne peut plus jamais voir la tête qu'elle a en vrai, donc elle a toujours un filtre. Et maintenant, pour se maquiller chez elle le matin, elle ne se maquille plus jamais devant sa glace, elle se maquille devant son téléphone avec son filtre.
Ça va bien se finir, ça.
Dément, quoi. Et la nana, c'est toutes les espèces de Dubai Girl, là, quand même. Elles veulent toutes ressembler à un modèle que moi, je croyais périmé, qui est la poupée Barbie. Et elles veulent... Non, en fait, elles veulent être comme ça, avec un cul comme ça, une taille comme ça, des seins comme ça. Et elles se réfèrent tout le temps à un modèle, et en tout cas, elles ne veulent pas être ce qu'elles sont. Quoi. C'est quand même...
Mais là, on rentre dans un autre domaine qui pourrait être d'ailleurs numéro 3, c'est la chirurgie esthétique.
Oui, c'est-à-dire que c'est toujours le problème de l'acceptation de soi.
Oui, elles se font grossir les fesses parce qu'il faut ressembler...
En tout cas, c'est je ne suis pas contente du tout de mon apparence, et donc je veux absolument tout changer. Et d'ailleurs, il y a une autre anecdote que je trouve absolument...
Tout changer pour plaire aux autres et pas à soi.
Pour se plaire aussi à soi, j'imagine. Mais pour plaire aux autres, ça me paraît... se changer à ce point-là, c'est vrai que ça commence...
Et se faire du mal.
Au finish, à un moment, elles vont... Vous vous rendez compte, quand vous avez, je sais pas, 60 ans, mais que vous avez l'apparence d'une femme de 35, mais dans votre vécu, vous avez 60 ans. Donc, à un moment, il va falloir accepter, quand même. Je pense que, c'est vrai que je sais plus qui disait, vieillir, c'est pas pour les mauviettes, mais c'est vrai, c'est horrible de vieillir. Mais il vaut mieux pas trop, c'est comme d'aller chez le dentiste, il vaut mieux pas trop retarder le moment.
Ça sera plus dur à soigner, c'est ça?
Mais oui, il y a d'autres anecdotes que je trouve horribles, mais qui me fait rire, plutôt que je suis tellement cruelle. Il y a un gars, je crois que ça s'est passé en Chine, il se marie avec une fille très, très, très belle. Vous la connaissez cette histoire, c'est horrible. Et le mec, ils ont un enfant et il est affreux. Il est très laid. Parce que le mec, il s'inquiète, il se dit, mais je comprends pas, moi je suis plutôt beau gosse, ma femme est très très belle, et on a un enfant qui est très vilain. Et en fait, il ne savait pas que sa femme, à la base, elle était très moche, mais elle s'est fait tellement refaire.
Et il a porté plainte.
Il a gagné. Et il a gagné.
Mais trempé sur la marchandise, quoi.
Exactement. Moi, ça m'a traumatisé cette histoire. Moi, je ne me fais plus rien refaire depuis. C'est tout arrêté.
Et l'enfant au milieu de tout ça, quand il va apprendre ça,
il est toujours laid.
Il va être bien.
Il a commencé la chirurgie à 5 ans.
Mince alors est au cinéma la semaine prochaine. C'est Mince alors 2. Est-ce que vous avez envisagé un autre titre du genre Encore plus mince ou Toujours plus mince ou c'était évident de faire Mince alors 2?
On a envisagé plein de titres et puis après j'ai dit allez stop avec les jeux de mots. Déjà c'en est un. Donc on va faire simple, on va mettre Mince alors 2.
Simple et efficace.
Ah oui, il n'y a pas plus simple. Hein.
Voilà.
C'est au cinéma et ça sera mercredi prochain. Voici Fanny Ruet.
Oh là là. Allez, Pipou, c'est bientôt la fin.
De l'année.
C'est bien... Non, de la vie.
Ah bon,
moi, j'ai beau avoir 27 ans, je sens que chaque jour qui passe me rapproche de la mort. Hein. Déjà maintenant, je manque souvent de mourir. En général, au restaurant, plein de fois, j'ai soif, je veux prendre mon verre, mais je prends la bougie. Darwinisme de base, hein. À mon enterrement, on passera « This girl is on fire !» Mais en attendant, je sais que je vieillis. Hein. Là, je suis hyper excitée parce que la semaine prochaine, avec mes amis, on va faire une scrablette.
C'est quoi ?
C'est une soirée scrable et raclette. Oh là là. Du fromage et des lettres. C'est comme déchiffrer des lettres, mais en gras. Oh là là. C'est incroyable. D'ailleurs, en allant à la fromagerie pour la raclette, j'ai compris que j'étais vieille. J'ai vu Gouda jeune, je me suis dit « Oh, le vantard !» Et franchement, quand t'es jalouse d'un fromage, c'est que c'est la fin. Ah. C'est vraiment le déclin. Et en termes d'intelligence, par contre, là, je reste très jeune. On va pas se mentir, régulièrement, je joue à chat avec mon chat. J'arrive près de lui et je crie « C'est toi le chat !» Ça fait ma semaine. Mais à part ça, je sens que je vieillis. Honnêtement. Ce qui me fait réaliser, d'ailleurs, les zouzous, que Noël approche. Donc, on va entendre plein de blagues sur le fameux oncle raciste qu'on a tous, qui va plomber l'ambiance et tout. Ha ha ha, oui. Sauf que, dans 30 ans, l'oncle raciste, c'est nous. C'est nous. On sera les fermés d'esprit de demain. Dans 30 ans, on reprochera le monde entier aux jeunes. On sera odieux avec eux parce qu'ils seront le reflet de tous les coches qu'on a ratés. Ils prendront l'ouverture. Ils diront qu'en fait, c'est facile. Et nous, on leur dira « L'ouverture facile, c'est pour les packs de jambon, Joachim. As-tu l'impression d'être un pack de jambon ? Non. Donc maintenant, tu viens à table et arrête de téléporter avant le dîner. » Et vraiment, on dira tout le temps ce genre de truc. On dira tout le temps que c'était mieux avant. On dira de mon temps, on n'avait pas besoin de lire un article pour avoir un avis, hein, bande de couillons. De mon temps, on avait du travail. On avait des vrais contrats. Bon, un contrat par jour de travail. Mais bon, franchement, c'est déjà ça. Et puis de mon temps, c'est pas parce qu'on avait violé des meufs qu'on pouvait pas être ministre. Donc c'est quoi ton excuse, Joachim, hein ? De mon temps, on savait faire la révolution. Quand quelque chose nous dérangeait, on postait un hashtag. Un hashtag, moi j'en ai connu des soulèvements. Hein, et pas seulement avec ta mère. Oui, parce qu'en plus d'être assis, on sera beauf, évidemment. Mais moi, j'ai connu la guerre, Joachim. J'ai connu la guerre, la Troisième Guerre mondiale, qui a eu lieu en 2030 sur Zoom, que la Russie a perdu, d'ailleurs, parce que tout le réseau Internet du pays était occupé par les enfants russes qui jouent à Fortnite. Donc moi, j'ai tout vécu, Joachim. Moi, j'ai connu le variant original. Le Covid, je l'ai vu grandir. Moi, je l'ai connu quand c'était juste une souche. Donc on sera vraiment des cassos. En fait, on sera des cassos, on sera les énormes casse-couilles de notre génération. TikTok, ce sera le réseau social des parents. Genre, on dira à notre neveu, viens ici, c'est pour un TikTok. Il fera, non, c'est pour les vieux. Puis, enfin, tais-toi, il danse, Joachim. Je me casse le cul pour toi depuis 15 ans. Et là, je te demande en effort de 11 secondes et tu refuses. Est-ce que c'est trop te demander ? On sera insupportable. On sera insupportable, vraiment, on sera aigri. On se sentira tellement en insécurité d'être dans un monde qui évolue plus vite que nous, qu'on se crispera encore plus. Donc, ouais. Pour tenter d'oublier le décalage, eh ben, le soir de Noël, on boira pour oublier. On enchaînera les verres de vin. Et là, franchement, j'espère que je boirai la bougie.
Merci Fanny Ruet.
Et Fanny, on se retrouve à la Scala à Paris pour tes deux dernières dates, mardi et mercredi prochain. Et puis tu seras aussi à partir de janvier en tournée dans toute la France.
La classe. Dans quelques minutes, Thierry de Lestrade, journaliste qui a réalisé un doc avec Sylvie Gilman sur le jeune, justement, sera notre invité. Mais d'abord la musique du film. Très feel good, hein, la musique que vous avez choisie.
Ouais. Hein. Ouais, c'est un jeune compositeur qui s'appelle Paul-Éric Rouvière. Et depuis deux films maintenant, j'essaye de ne plus prendre de standards et de faire travailler justement un compositeur sur tout le film.
C'est génial. Et sur vos commandes, vos recommandations, vous dites je veux. Par exemple, vous lui faites une espèce de playlist de chansons que vous avez aimées en disant je veux un truc dans ce style-là.
Je ne fais plus ça du tout. Maintenant, je lui donne le scénario et je lui dis. Qu'est-ce que tu me proposes ? Et fais ton univers par rapport à ça. Parce que je trouve que justement, quand on commence à faire sa playlist, qu'on commence à machin, je veux dire, on influence le gars et je trouve qu'on empêche la création. Et j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que toutes les musiques de films que j'adorais, justement, d'autrefois, bien en fait, c'est comme ça qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'on donnait le scénario, même pas les images d'ailleurs, on donnait le scénario au compositeur.
Pour les servir d'inspiration.
Et en fait, c'est à lui de
créer.
Voilà, de créer.
1972 dans la vie de Charlotte de Turckheim, vous écoutiez. Vous étiez amoureuse de David Bowie ?
Alors, j'étais pas amoureuse de David Bowie, mais j'habitais à Londres, j'étais toute jeune, et il y avait son premier concert à Earl's Court, et moi, c'était un choc pour moi. Moi, je n'ai pas pu entrer parce que j'étais mineure, mais je voyais tous les gens, j'habitais à côté de Earl's Court, je voyais tous ces gens qui allaient au concert.
C'est fou.
Et c'était, mais c'était un autre monde, quoi. Je découvrais le côté rock, en fait, de la musique. J'étais ébahie par les looks aussi des gens.
Et vous étiez seule à Londres, vos parents vous ont envoyé là-bas parce qu'ils ne savaient plus trop quoi faire de vous, je crois.
Voilà, exactement, ils ne savaient plus trop quoi faire que de moi, j'étais nulle en classe. Et ils se sont dit, peut-être que si elle va passer un an à Londres,
c'est
ça va la motiver.
C'est sympa comme parents, ils sont sympas les parents, parce que généralement quand t'es nulle, c'est pas...
qu'ils étaient assez cool là-dessus, un peu inconscients quand même, parce que laisser une gamine de 17 ans seule à Londres...
Ben, c'est son 10.
Belle connerie.
D'autant que vous revenez à Paris et que peu de temps après, vous vous ennuyez en prépa Sciences Po, vous partez en Colombie.
Oui, voilà, exactement.
Et que vos parents ont envoyé Interpol pour vous rapatrier.
Voilà, non,
ils ont menacé.
C'est vraiment le circuit de la drogue, hein, parce que Londres 70, puis Colombie, vous êtes directement allé au fournisseur.
Parce que Panama pour planquer là-dessus.
D'ailleurs, je suis démasquée et en tant que naturopathe et en tant que dealeuse.
On parle de Juan Carlos.
On peut parler de Juan Carlos.
De Juan Carlos qui fait que quoi, vous êtes resté en Colombie.
Il
s'appelle Juan Carlos.
Oui, il s'appelle comme le roi d'Espagne.
C'est ça.
Exactement. Et finalement, c'est pas Interpol qui est venu me chercher, c'est mon père qui est venu me chercher. Et il a sympathisé avec Juan Carlos. Ils sont devenus vachement potes. Et ma mère était furieuse en disant si vous rentrez pas, je vous envoie Interpol. Et on est rentré un mois après avec Juan Carlos.
En 75, vous écoutiez Bette Midler, Charlotte Ducrem. Ce film,
The Rose,
bah oui.
Magnifique,
culte,
mais que pas beaucoup de gens connaissent.
Si, quand même.
Je crois, quand j'en parle.
Alors c'est peut-être, il a peut-être pas traversé toutes les générations, mais c'est un film culte.
Bette
Midler, The Rose, énorme.
Bette Midler, culte.
Et en 75, Charlotte de Turckheim, vous vous mariez. Pourquoi? Pourquoi on se marie?
Bah parce qu'on aime, non?
Je sais pas, je pose la question.
Bah, on aime et puis on... Je sais pas, vous avez jamais fait de conneries, vous?
Pas à ce point, quoi.
Eh bien, moi, oui. Mariée à 19, divorcée à 20.
Et un truc
comme ça.
Ça s'est fait.
Et pourquoi
Parce que j'étais. En fait, on était amoureux et puis.
Ah, quand même.
Oui, et puis en fait, avec Jean-Noël, on voulait monter un spectacle et on s'est dit, mais le mieux, c'est d'avoir une liste de mariage. Et comme ça, on a tout transformé en bois, en peinture, et on a monté notre premier décor avec la liste de mariage.
La liste de mariage était.
Oui, on était, je crois, au Galerie Lafayette.
C'était la prod. C'était la prod.
Oui, c'est notre prod. En fait, on s'est dit, on va récupérer du pognon comme ça, et on a monté le bonbon magique avec ça, le premier spectacle.
Oh, bonbon magique pour un mariage, c'est formidable. Ouais. En 2004, vous écoutiez Prince.
Oh, chef-d'œuvre, ça.
Vous écoutez beaucoup de musique chez vous, quand vous travaillez, quand vous écrivez?
Non, pas quand j'écris, mais j'écoute beaucoup de musique, mais très fort, ou dans la voiture, très fort.
Et de tous les styles, ou très, très pop-rock?
Alors moi, très pop-rock et très latino, voilà.
D'accord.
J'ai un peu monomaniaque sur ces deux trucs-là.
Et donc, en l'occurrence, latino, c'est Prince, quoi. C'est le côté gypsy de Prince qui faisait tout
le. Non, là, je ne vous ai pas mis du latino, parce que les gens, ils n'aiment pas trop le côté reggaeton et tout ça.
Vous plaisantez, c'est mondialement, c'est le succès mondial, le rythme des dernières années, c'est ça? Despacito et compagnie, enfin, c'est
ah oui, c'est vrai, moi j'adore ça. Ouais. Un groupe cubain qui s'appelle Gente de Sona, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est trop bien.
On est en 2004, on ne m'a pas prévenu, c'est le titre de votre one-man show que vous avez co-écrit avec Bruno Gassiot. Pour parler de votre vie, du rapport aux hommes aussi, que les femmes entretiennent en général avec les hommes, des choses qu'on n'entend pas facilement quand on est un homme, justement.
C'est vrai que Bruno est bien placé pour parler des rapports hommes-femmes.
Enfin, il connaît. Hein.
Un spectacle un peu plus sensible aussi, finalement.
Oui, mais à la fois, je crois que c'est toujours la même veine, c'est-à-dire à la fois essayer d'être le plus drôle possible sur des sujets un peu sensibles, un peu profonds, entre guillemets. Quoi. J'aime bien quand il y a différentes couches de lecture, en fait. Quand ceux qui veulent se marrer, ils font que se marrer. Et puis ceux qui veulent voir autre chose, voient autre chose.
Il est stéphanois, Bruno Gassiot.
Oui, stéphanois.
C'est ça. Ah, je comprends mieux pourquoi en 2015 vous écoutiez.
Qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les verts.
Ça s'est juré Allez. Sauf que là, pardon, cette chanson avait été faite pour les années 70, les fameuses années des Verts, des Revelli, des Rocheteau et autres Larquet. Et vous, vous dites, en 2015, j'écoutais Allez les Verts.
Ben oui, parce qu'en fait, j'ai fait un film à Saint-Étienne.
Qui c'est les plus forts.
Voilà, qui c'est les plus forts. Et donc, on écoutait beaucoup. Et puis, je sais pas, je trouve hyper entraînante. Et c'est un hommage à cette ville que j'ai adorée, en fait. J'ai adoré tourner là-bas.
Et c'est Bruno qui vous a rendu amoureuse de Saint-Étienne ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que je suis pas sûre qu'il soit toujours très fan de Saint-Étienne. Mais, mais moi, oui, en tout cas.
Et ce film, c'est votre quatrième long métrage. Vous décidez de le placer à Saint-Étienne pour raconter l'histoire de Samantha, une jeune femme qui est au chômage, qui vit de petits boulots et qui s'occupe de sa sœur qui porte un handicap.
Oui, qui est un peu autiste.
On est un peu dans la veine des films sociaux, un peu à la Ken Loach, en fait.
Film anglais, oui.
Oui, c'était une pièce qui s'appelait Sunderland, écrite par Clément Koch, qui était à la fois très drôle. Il y a énormément d'humour dans ce film, mais sur un sujet effectivement encore plus difficile. Mais là, j'ai loupé mon coup. Je crois que l'erreur qu'on a faite, c'est de vouloir justement trop le raccorder au foot, par exemple. Alors, c'est un peu bizarre parce que je passe cette chanson, mais du coup, on a voulu vraiment faire passer ça comme une comédie, ouais. Et c'était probablement, on n'était plus dans la catégorie comédie. D'accord. Mais dans la catégorie, moi je trouve que c'est... Même moi, c'est pas mon plus joli film.
C'est avec le recul que vous dites ça ou en le faisant déjà, vous aviez un doute ?
Ah non, en le faisant, le film avec Audrey Lamy, vous voulez dire... Quand on a fait le film, on était tellement embarqués tous par ce sujet et le film a connu un tel succès auprès des professionnels, des exploitants, etc., qu'on n'a pas vu que ça marcherait pas, en fait. Mais je pense qu'on a fait vraiment une erreur de com'. En fait, il fallait me dire, je sais pas, genre, Charlotte fait son tchao au pantin, je sais pas quoi. Ouais.
Il était hors de question que vous quittiez ce studio sans avoir ce plaisir, Charlotte de Ducal. Et c'est en chaloupant que Thierry de l'Estrade nous rejoint. Bonjour Thierry. Merci. Bonjour. De venir à ce micro. Vous avez co-réalisé avec Sylvie Gilman le documentaire Le Jeûne, une nouvelle thérapie diffusée sur Arte, qui est devenu un livre aux éditions de La Découverte. Vous avez vu ce doc ou lu le livre, vous réagissez?
Oh ben oui, sûrement. Ah oui, sûrement, je me suis dit, j'ai tout lu sur le sujet.
Vous avez enquêté sur cette pratique. On disait qu'elle date de la naissance de l'humanité, non? Les Grecs faisaient déjà des longues journées de marche et de jeûne.
Oui, bien sûr. Mais pour parler du jeûne, d'abord, il faut répondre à une question fondamentale. C'est pourquoi est-ce qu'on prend du poids? Alors, si je vous pose la question, vous allez me dire, c'est parce qu'on mange trop ou est-ce qu'on fait pas, parce qu'on fait pas assez d'exercice? C'est pas vraiment ça, la vérité. La vérité, on prend du poids parce que on stocke.
Si vous pouvez pas savoir, là, franchement, j'ai envie de dire, on vous retrouve tout de suite après cette publicité, mais il n'y a pas de pub. Il y a un silence. Regardez le silence autour de cette table. Le mec, il arrive et...
Arrête de l'interrompre, Nadine.
Je vais vous dire pourquoi on prend du poids. Mais d'abord, une page de publicité. Non, allez-y, on s'en blague. Pourquoi on prend du poids, alors?
Pourquoi?
Tout le monde attend la réponse, suspense.
Oui, non, mais pourquoi on prend du poids? On prend du poids parce que on stocke. Notre corps stocke ce qu'il y a en surplus. On pourrait se dire, finalement, le corps, quand on mange, le corps, ce dont il n'a plus besoin, il peut l'éliminer. Ça se passe avec les médicaments, par exemple.
Mmh. Donc, pourquoi
notre corps, quand on mange, il stocke le surplus. Pourquoi il stocke?
Parce que au mauvais endroit, surtout.
Il fait des réserves. Et notre organisme, en fait, a été construit par toute l'histoire de l'humanité et des milliers d'années d'évolution, de l'histoire de l'évolution. Donc, et dans cette histoire de l'évolution jusqu'à très, 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 très récemment, aux périodes d'abondance succédaient des périodes de famine et de disette. Donc, pendant les périodes d'abondance, quand il y avait des ressources, on pouvait se nourrir et on se nourrissait beaucoup.
Comme les ours qui hibernent.
Ouais, c'est ça. Et on stocke. Ceux qui avaient la capacité de stocker survivaient aux périodes de famine. Et donc, l'histoire de l'évolution a dessiné notre organisme pour stocker le surplus.
Sauf que maintenant, avec la surconsommation et avec...
Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne disette.
Voilà. C'est une bonne guerre, monsieur. Ça vous mettrait toute cette jeunesse...
J'ai pas voulu le dire pour pas gâcher l'ambiance, mais...
les phrases toutes faites qui font peur.
Alors, y a,
est-ce que c'est vraiment
en tout cas dans les pays occidentaux. Donc, mais succédait et après le stock, après les réserves, il faut déstocker. C'est ce qui se passait donc pendant toute cette histoire. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas en tout cas dans nos sociétés occidentales. Donc il faut le faire. Par sa propre volonté, si vous voulez.
Alors, il faut le faire de quelle durée? Parce que tout à l'heure, on a évoqué en disant, est-ce que c'est 3 jours, 4 jours, une semaine, 15 jours, un mois, ou simplement le fameux jeûne tout.
Intermittent,
oui, c'est ça. Oui.
Alors, juste pour savoir comment ça se passe pendant un jeûne, et si le jeûne aussi, le mécanisme du jeûne est issu de l'histoire de l'évolution, justement, c'est... en période de disette, il y a un switch qui se passe à l'intérieur du corps. C'est un processus épigénétique, il y a une modification de l'expression des gènes et tout. Donc, c'est toute la mémoire, notre corps porte cette mémoire-là de switch. On commence à manger ses réserves, parce que c'est ça qui est formidable dans le jeûne. C'est, d'habitude, on nourrit notre corps, et quand on passe en mode jeûne, c'est notre corps qui nous nourrit. Donc, on se met un peu la tête à l'envers. Et c'est un état qui est assez extraordinaire, pour l'avoir donc expérimenté plusieurs fois. C'est un état où on se sent extrêmement léger, extrêmement vif d'esprit. Et on après a envie de vivre longtemps. Comme
après
ça.
Avoir passé un ou deux jours un peu délicats.
Un peu délicats.
Et ensuite, il y a un boost, en effet.
Après, il y a un boost.
Mais pouvez-vous juste me dire quelle est la durée idéale d'un jeûne?
Idéal, alors...
Il n'y en a pas.
Je sais pas.
Oui, non, ça dépend de vos réserves.
D'accord.
Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de réserves pourra jeûner 10, 20, 30.
Est-ce que dans votre étude, dans votre recherche, il est plus intelligent, justement, de se dire un jour par semaine, je fais un jeûne comme ça de 24 heures, régulièrement, comme pour habituer mon corps, justement, à vivre ce rythme-là, ou plus malin de se dire, ce que j'avais aussi entendu par un nutritionniste, à chaque changement de saison, on passe de l'hiver à l'été et inversement, on se fait une cure d'une semaine.
Alors, oui, je pense que le plus intéressant, en général, c'est de faire 5 jours tous les 3 ou 6 mois. Juste pour voir les effets.
Je n'étais pas très loin avec les saisons.
Oui, c'est ça. Il y a juste une étude scientifique qui va paraître bientôt et qui est assez extraordinaire parce qu'on a pris un groupe, un groupe de personnes qu'on a fait jeûner 5 jours tous les 2 mois pendant 6 mois. Donc 3 cycles de 5 jours de jeûne. Et ils ont calculé leur âge biologique. Alors l'âge biologique, c'est un truc extraordinaire, mais avant, on ne savait pas calculer ça, et c'est très très récent. C'est depuis 2-3 ans qu'on sait faire ça, parce que ça prend en compte des paramètres énormes. Et donc l'âge biologique, c'est l'âge de vos cellules, l'âge de vos artères, l'âge de vos neurones. C'est pas l'âge, ça s'oppose à l'âge chronologique. Des fois, ça correspond, mais ça peut être très différent.
J'imagine que si vous en parlez comme ça, c'est que c'est impressionnant.
Donc, ils ont calculé l'âge biologique de ces gens. Ils ont fait 3 cycles de jeûne. Et au bout de ces 3 cycles, ils avaient gagné 2 ans et demi d'âge biologique. C'est-à-dire que leur organisme s'était régénéré, avait gagné 2 ans et demi.
Le jeûne porte bien son nom. Ouais. On a dit tout à l'heure qu'il fallait faire attention, faire un suivi médical. Ça peut être dangereux de jeûner?
Alors, le jeûne en tant que tel n'est pas dangereux, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un principe qui est inscrit dans l'histoire, dans nos gènes, mais il faut faire attention. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez jeûner tranquillement. Si vous prenez des médicaments, si vous avez une maladie chronique, et le jeûne est très indiqué pour toutes sortes de maladies chroniques, comme le diabète, comme l'hypertension, mais ça, vous prenez un médicament tous les jours, donc... Pendant le jeûne, il y a des modifications à l'intérieur du corps. Vous allez baisser les médicaments. Donc, il faut être suivi par un médecin, évidemment. Ouais.
Est-ce que quand on parle de jeûne, c'est strictement rien à manger et ne boire que de l'eau? Ou il y a quand même...
Des bouillons,
un
petit burger, un petit truc.
Des jus de... des fruits pressés.
Des déshydratés. Ouais. Vous pouvez prendre des soupes. Mais enfin, des soupes très très légères. Il y a des jeunes, il y a divers types de jeunes. Il y a des jeunes, il y a de l'eau. Les Russes faisaient ça, à l'eau claire. Peut prendre aussi des soupes.
Des bouillons.
Pas de fruits, des bouillons, oui. Mais pas de fruits plutôt, parce qu'il faut éliminer tous les sucres.
Oui.
C'est vraiment voilà. Une détox du
sucre,
sevrage.
Le principe du jeûne, puisque le corps se nourrit de glucose et de sucre, vous arrêtez tous les sucres. C'est à partir de là qu'il va taper dans le gras.
Dans les réserves.
Vous avez les fameuses réserves.
Très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment tout le monde vous écoutait religieusement, Thierry.
J'ai même pris des notes.
Thierry de Lestrade, le doc est visible sur arte.fr. Il y a un replay possible ou sur YouTube ou pas du tout?
Le doc, j'avoue que je ne sais pas.
Ok, mais en tout cas, le livre est en vente libre, aux éditions de la Découverte, s'appelle Le Jeûne, une nouvelle thérapie.
Le documentaire a été rediffusé, c'est 7 ou 8 fois sur Arte.
Ça s'appelle un succès.
C'est un succès de chaque fois de rediffusion.
Évidemment.
Mais comme quoi cette histoire du corps et de notre rapport au corps, il intéresse quand même vraiment les gens, parce que ce soit mince alors, comme vous dites,
c'est chaque fois un succès, chaque fois que ça passe à la télé, c'est un carton.
6 fois par an depuis 10 ans, mais les trucs sur le jeûne, c'est la même chose, donc ça prouve bien qu'il y a quand même un questionnement très fondamental quand même sur notre santé.
Bien sûr, et il faut quand même une force de caractère, il faut le dire aussi, quoi, pour se décider, pour se lancer. On parle beaucoup de suivi médical, mais il y a la volonté qui est quand même le point de départ de tout.
Le jeûne, en fait, c'est un peu comme dans les contes, il y a une porte qu'il faut ouvrir au grenier, et cette porte est interdite, vous êtes devant la porte, il faut avoir un peu de courage pour l'ouvrir, parce que derrière, c'est un pays inconnu.
Thierry de Lestrade.
Vous l'ouvrez cette porte et vous affrontez à vos vulnérabilités, à vos faiblesses, à vos peurs. Mais c'est un chemin d'indépendance et de liberté.
Derrière la porte, il y a Daniel Morin.
Merci Thierry. Merci Daniel Morin.
Alors, les amis, mon héros du jour aurait pu être un homme de goût, un homme de cuisine, un visionnaire des fourneaux. Un homme... malheureusement, disparu trop tôt. C'était le 16 décembre 1980. Il y a tout juste 41 ans. Cet homme, c'est le colonel Sanders, le fondateur de la chaîne gastronomique KFC. Kentucky fucking chicken.
T'es sûr c'est le jour?
Et quoi de meilleur qu'un bon bucket pilon de poulet? Hein, rien peut-être, sauf un délicieux chicken burger de chez KFC. KFC, c'est là que veulent mourir les poulets patriotes. C'est là parce qu'ils savent qu'ils seront dégustés par les connaisseurs en matière de volaille. De la belle et bonne volaille, élevée en batterie et nourrie aux antibiotiques. Tu manges bien et tu te soignes en même temps. KFC pour les grands et les petits qui veulent devenir gros. Oui, le colonel Sanders aurait pu être mon héros du jour. Mais malheureusement les amis, il ne l'est pas. Déjà parce que ces délicieux burgers de poulet pané, ça ne va pas, comme tu l'as compris Nagui, avec la promo d'un film qui s'appelle Mince alors. Voilà, et aujourd'hui en plus je veux parler cinéma. Mais attention, cinéma de qualité.
S'il te plaît.
Cinéma d'auteur. Je veux parler d'un chef-d'œuvre qui est au 7e art ce que le KFC est à la bonne bouffe.
Mon Dieu.
Mon héros, c'est le film Fast and Furious 10. Pourquoi en parle-je? Eh bien, parce que malheureusement, sa sortie va être retardée. Putain, on nous prie encore de culture! On va être obligé de patienter encore et encore avant de se régaler des intrigues folles de ce film qui fait la part belle aux bagnoles de mecs et de nanas qui en ont dans le froc. Petit retour en arrière sur les meilleurs moments de cette saga. Fast and Furious 1. Pamela, on a Johnny qui nous cale aux fesses. Prends un droit devant le mur. Bien joué, Pamela. Il a pas vu le mur. Fast and Furious 2. Wow, super caisse, Larry.
Yes, elle monte à 300 en 2 secondes.
Larry, je crois que t'es plus cocu. Regarde, j'ai tourné à droite juste avant la cabine téléphonique. Ah, ils ont fermé la cabine téléphonique, les flics. Fast and Furious 3. Oh, mortel ta caisse, Eduardo.
Elle roule à la nitroglycérine, bioéthanol, mojito.
Attention, Eduardo, je crois que la bande des Californiens nazis est derrière dans leur Ferrari Panzer Turbo 130 soupapes injection éther.
Regarde, je monte à 250, je fais un demi-tour frein à main juste avant le McDo.
Oups, ils ont pas vu le McDo. Bon, je crois que je vais passer les extraits des 9 films, mais je crois que c'est de la bonne qualité. Fast and Furious, c'est l'avenir de la conduite en ville. Imiter le comportement des personnages, c'est un trafic plus fluide et un gain de temps pour aller d'un point à un autre. C'est pourquoi j'en appelle solennellement à Anne Hidalgo.
Ah, direct. Ouais.
T'as pas peur? Madame la maire de Paris, vous êtes rendu compte que la conduite en ville à 30 km/h, ça n'arrange personne. Pire, ça agace tout le monde. Changez de politique routière pour notre belle capitale. Essayez à la très grande vitesse. Pour ce faire, je vous conseille de solliciter les services des équipes de la franchise Fast and Furious. Ces gens connaissent leur sujet. Alors oui, je sais, une politique de trafic à très haute vitesse ne se fera pas sans casse. Mais une fois que les Parisiens auront maîtrisé leur véhicule à essence hyper rapide, ils traverseront Paris en un rien de temps. Ce qui est bon pour la planète. Ce qui est valable pour les voitures l'est aussi pour les bus. Imaginez un bon vieux bus de la RATP qui traverserait Paris en 4 minutes 30. Quel bonheur! Oui, sans hésiter, l'esprit Fast and Furious, c'est mon héros du jour, mon ami.
Merci, Daniel Noir. Tanguy Pastureau, de quoi veux-tu parler aujourd'hui?
Je vais vous parler d'un grand, grand glacier qui fond et ça fait peur.
Daniel Morin, notre invité Charlotte de Turcaille.
Le feu.
Non mais alors, on parle de ce film, Le Mince Alors 2, réalisé, co-signé, porté, interprété par Charlotte de Turckheim, avec Lola Devers, avec Catherine Haussmann, entre autres. Il y a également Barbara Bolotner, Marc Rizzo, Charlotte Gassiot, évidemment.
Johanna aussi.
Que j'embrasse.
Johanna.
Qu'est-ce que ça fait de jouer avec sa fille?
C'est après pas Julia, Johanna.
Ouais, voilà.
Alors, c'est d'autant plus étonnant que celle-là, cette Johanna, elle a parcouru un
peu. Celle-là.
Elle est marrante parce que là, en ce moment même, elle est à Haïti. Elle travaille pour le Programme Alimentaire Mondial. Donc, elle fait une espèce... Elle a deux passions qui est l'humanitaire et le cinéma. Mmh.
Et après le jeûne, elle fait de l'alimentaire.
Voilà, exactement. Et donc, en ce moment même, elle est donc à Haïti. Elle avait très, très envie de... Elle avait déjà joué dans un film qui s'appelait Les Aristos, où elle faisait ma fille, où elle était géniale. Et elle m'a dit, mais tu sais, j'aimerais bien me passer le casting pour ce rôle et tout. Et je lui ai dit, mais tu pars à Haïti, comment tu vas faire? Elle m'a dit, entre les deux, je crois que, entre deux missions, je suis libre. Et je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer. Elle était formidable.
Elle fait la maigrichonne qui fait quand même la cure.
La demi-sœur de Charlotte Gassiot.
Voilà. Elle m'a dit, mais pourquoi t'as donné le rôle de la méchante à ta fille? Mais j'ai pas donné le rôle de la méchante. D'abord, elle est pas méchante, elle est malheureuse. Hein. C'est pas pareil. Mmh. Donc elle est très jolie, elle est très très mince. Ce qu'est ma fille et en fait elle ne se vit pas bien et elle veut absolument
que tout le monde soit maigre autour d'elle
parce qu'elle pense véritablement en fait le rôle de Lio pour moi c'est un peu c'est la société d'aujourd'hui c'est-à-dire qui vous impose elle dit à sa sœur qui est Charlotte Gassiot qui est grosse mais qui est très heureuse qui a un mec et sa vie va vachement bien mais elle lui a dit tu sais le monde appartient aux gens qui sont minces, jeunes et beaux, et donc il faut absolument que tu maigrisses, quoi. Et vous savez, on a tous quelqu'un dans.
Je crois que même elle dit est-ce que t'as déjà vu une première dame
Oui, est-ce que t'as déjà vu Est-ce que regarde les présentateurs à la télé, les actrices, les premières dames, les gens qui ont des postes à haut.
L'exemple donné, Angela Merkel, non. Elle était maigre avant d'être grosse.
Elle était maigre avant. Ouais, tu l'aurais, si tu l'avais vue jeune, elle portait des shorts avant que ça pique les yeux.
Il y a finalement, et c'est ça qui est intéressant dans le film, le but est le même pour tout le monde, c'est-à-dire mincir, perdre du poids. En tout cas, globalement, tout le monde le veut pour soi. Et il y a en effet le personnage de Charlotte qui le subit parce que c'est sa sœur qui la pousse à le faire. Mais ils ont tous aussi des problèmes à régler et une quête d'amour. Ils ont tous des rapports particuliers à l'amour.
Oui, parce que quand on parle
vous la première,
du corps, vous la première, il faut aussi parler de la sexualité, parce que ça va avec, et donc la sexualité et l'amour, évidemment. Parce que quand on se sent un peu différent, on se sent un peu exclu aussi de l'amour et des sentiments. Et quand on est ado et qu'on fait 160 kilos, on a quand même un peu du mal à s'approcher d'une fille, parce que déjà, on ne s'aime pas trop soi-même, donc on se demande comment on va plaire à quelqu'un. Et au-delà de ça, je pense qu'on a, évidemment, même les adultes, dans ce film, tout le monde a des problèmes finalement.
Oui,
et puis même avoir des enfants, dans le film.
C'est une information.
Alors ça, c'est une information médicale.
D'accord.
C'est-à-dire que sur le premier, après, je me faisais arrêter par plein de gros en France qui me disaient Big is beautiful, merci de ce que vous faites pour nous. Et alors j'étais emmerdée parce que moi, je dis jamais Big is beautiful. C'est-à-dire que Big is beautiful, si toi, tu trouves que t'es beau
si
comme
t'es
ça.
Si t'es bien dans ta peau, c'est
mais,
ça.
Ouais. Mais il faut aussi, il y a quand même un paramètre de santé qui est quand même important. Sûr, oui. On a bien vu pendant le Covid, ceux qui mouraient, c'était des gens qui étaient obèses. Donc, c'est vrai que quand on veut faire un enfant, bah, c'est plus compliqué, justement, quand on est vraiment
en surpoids. Et que l'enfant lui-même peut risquer d'avoir des problèmes de santé.
Et qu'on lui transmet ce gène-là, c'est sûr.
C'est ça qui est fort aussi dans le film, c'est qu'au-delà des intrigues personnelles, au-delà du regard des autres, au-delà de la comédie, il y a un côté tragicomique aussi, et je pense au personnage de Catherine Osmalin qui, elle, a maigri et se demande si elle n'a pas intérêt à regrossir pour pouvoir reconquérir son mari, ce qui prouve bien, encore une fois, que le bonheur n'est pas toujours là où on croit qu'il peut se trouver. Et puis, il y a de véritables informations étayées de recherches, de renseignements que vous avez pris auprès de
médecins.
Non, mais c'est il a plusieurs lectures, et puis sans parler des fantasmes qui habitent votre personnage, qui évolue aussi en fonction des hommes que vous croisez dans le film. C'est extrêmement drôle. Ça s'appelle
Fantasme partagé. Hein.
Mince alors deux. Ah oui, même le vieux. Mince alors deux.
J'ai oublié celui-là.
Mince alors deux, c'est au cinéma mercredi prochain. Voici Tanguy Pastureau.
Oh là là.
Je sais, c'est bientôt les fêtes, on a envie de rêver, de se faire du bien, de s'offrir les uns aux autres des objets à revendre dès le lendemain sur le bon coin, enfin Noël quoi. J'ai donc cherché un sujet de chronique feel good avec des lutins, Maria Carey et un chat, parce que le chat c'est un refuge. Quand on va mal, il suffit de le caresser pour aller mieux. Moi j'ai pas de chat, donc je caresse des gens. Bon, mais depuis ces histoires de consentement, enfin c'est devenu compliqué, avant de tripoter faut dialoguer. Enfin si du temps de Zorro on était parti là-dessus, Bernardo serait resté vierge. Allez trouvez-vous à Reina de Los Angeles, une fille qui comprend la langue des signes. Et le porno c'était rudimentaire. Le malheureux pouvait à la rigueur penser à Don Diego de la Vega tout nu avec juste son masque et fantasmer, mais ça occupait pas l'ensemble des soirées de l'année. Bon, alors notez que j'étais parti pour vous parler de Noël et que je viens de passer une minute à salir Zorro. Voilà, je suis désolé. Allez, foutu pour foutu, rip l'ambiance conviviale. En fait, je vais vous parler d'écologie. Hein, vous savez, ce sujet qui devrait être au top de nos priorités, mais dont aucun candidat à la présidentielle ne parle. Zemmour, son truc, c'est l'islam. Marine Le Pen, l'immigration. Pécresse, c'est battre Macron. Macron, c'est battre Pécresse. Et Mélenchon, c'est la 6e République. Ça fait tellement de temps qu'il est là-dessus que si elle est élu, je pense qu'il mettra en place directement la 7e. Hein, ça fera comme ses parents bohèmes qui portent des chèches et vous disent « Oui, notre fils Enzo Maximilien est tellement fort qu'il a sauté son CE1 » et à qui vous pourriez juste répondre que le vôtre à Pokémon Épée, il a battu Tarak. Quoi. En fait, je vous explique. Hier, je surfais sur le web, comme disent les ados. J'ai tapé sur Google « Comment rester crédible avec un pull de Noël ?» Google a affiché zéro résultat. Et là, je suis tombé sur un article concernant une autre catastrophe. La fonte du glacier Thwaites. Alors, c'est écrit THW, donc je ne sais pas si on prononce Thwaites ou Thwaites, mais on s'en fout parce qu'il va disparaître. Donc autant ne pas apprendre son nom. Hein, moi je fais ça avec les chanteurs, je ne prononce pas leur nom avant qu'ils aient 30 ans de carrière pour être sûr. Là par exemple, je viens d'apprendre à dire Francis Cabrel. Voilà, même si je ne vous cache pas que j'y crois pas trop. Hein, le côté rural un peu taiseux, qui a de la paille sur le col au lieu de l'avoir dans le pif comme les autres chanteurs, ça va. Hein, donc le glacier machin là fond très vite selon les scientifiques. Ils pensaient que le processus se jouerait sur un siècle et en fait ça fond à vue d'œil. Hein, la glace à l'italienne qu'on pose sur le bassin de PPDA au moment où il y a des filles qui passent. Quoi. Or, ce glacier qui se situe en Antarctique fait la taille de la Floride, l'état où vit le rappeur Booba, qui fait lui-même la taille de la Floride. Hein, quand il bande ses muscles, il reste 10 mètres carrés en tout pour les autres habitants. Et il est appelé par les scientifiques le glacier de l'apocalypse. Sobriquet, peu rassurant. Hein, quand on ajoute de l'apocalypse à un nom, c'est mauvais signe. Exemple, l'album de la maturité, ça signifie qu'un artiste a trouvé sa voix. L'album de l'apocalypse, ça signifie que Céline Dion a retrouvé la sienne. Donc en gros, ce glacier s'effondre. Or, les spécialistes considèrent qu'il est une clé de voûte. C'est-à-dire que si lui cède, tout vient avec. Allez, image pour que vous compreniez. Vous faites une pyramide humaine. En bas, vous mettez Teddy Riner. Bah, la Riner est allée pisser et il s'est fait remplacer par Laurent Dutch. Voilà. Contre lequel je n'ai rien. Mais si j'avais été au collège avec lui, j'aurais plus copié sur lui en histoire qu'en sport. Bon, là, c'est ce qui se passe. Tout est en train de lâcher. On dirait mon visage le matin avant que je mette mes petites crèmes. Hein. Mais tout le monde s'en tape. Parce qu'il n'y a que les scientifiques qui trouvent ça rapide. Nous, un glacier qui fond, on va y consacrer un quart d'heure, dire oh là 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 là, c'est pénible. On dirait la sélection, un certain regard au Festival de Cannes, laisse tomber et se barrer. Sauf que les scientifiques ont tenu une conférence de presse lundi pour expliquer que dans les 3 ans, le glacier de l'apocalypse allait craquer, libérant 50 milliards de tonnes de glace par an. Ah. Vous voyez la glace qu'il y a sous les merlans à la poissonnerie du Leclerc? Bon, bah, c'est plus, hein. Alors, je sais, Nagui, que la planète, vous en foutez, vous, votre passion, ce sont les vieux véhicules diesel, mais bon, vous aimez la plage, hein. C'est là que vous dorez votre corps aux muscles saillants et qu'à chaque grand trait de septembre, on a un peu envie de vous prendre. Bon. Eh bien, ont annoncé les scientifiques lundi, la
la fonte du glacier de l'Apocalypse, concrètement, hein, c'est une montée de l'océan, des océans, de 65 cm tout de suite, 3 mètres à terme. 3 mètres. Donc mon conseil, n'achetez pas à Pornichet. Si vous voulez être au bord de la mer bientôt, un F2 à Laval est un meilleur investissement. Le bon plan, créer maintenant un festival du champ de marin à Laval. Hein, 3 mètres potentiellement de montée des eaux, les 3 quarts de l'Antarctique qui fondent. Et nous, on est là, pom pom pom, tranquillo Paolo, à écouter les politiques déblatérer sur l'identité. L'identité, pourquoi pas ? Moi, j'aime la France. On a quand même créé la tartiflette et le porno chic. Hein. Mais si la moitié des pays deviennent invivables parce qu'ils sont sous l'eau, l'immigration, là, vous allez voir ce que c'est. Un par Zodiac, il y en aura 4000 des pyramides humaines de gens qui diront appeler des dirineurs, parce que je sais pas qui est le con qui a foutu Laurent Dutch en bas. Les scientifiques, bizarrement, quand ils parlent, on ne les entend pas. Nos oreilles, en fait, sélectionnent une chanson d'Élodie Frégé. On l'entend, on se dit, c'est coquin, ça me fout des frissons, bordel. Mais les scientifiques, non. D'où le fait que dans ce qui devrait être des chroniques marrantes, j'en parle un peu. Là, ce sera peut-être entendu, j'en sais rien, parce que les bodins en Thaïlande, j'ai rien contre, hein, mais concrètement, on n'a plus le temps, là.
Joli, bravo, bravo.
Et Tanguy Passuron, on se retrouve le 14 janvier au Zénith de Pau.
Oui, oui. Le monde part en sucette, mais la nature est belle dans le film aussi, cette nature qui aide en termes de santé. Là où les choses sont plus dures, voire cruelles, c'est entre les ados. Il y a des vannes d'une méchanceté inouïe.
Bah, parce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça et vraiment, j'ai beaucoup fait évoluer les dialogues justement. Quand je les ai écoutés se parler, je me suis dit, oh la vache, putain, c'est d'une dureté. Alors ils sont extrêmement drôles et c'est pour ça que j'ai demandé à Antoine Chomsky de faire les dialogues parce que moi, ça faisait vraiment dialogue ringard quand c'est moi qui les faisais. C'est la vieille qui fait parler les jeunes.
Il y avait Laurent Baffy qui vous avait aidé sur le
premier. Oui, Laurent Baffy m'avait beaucoup aidé pour le premier. Ah oui, il avait trouvé vraiment des vannes super. Mais là, c'était un peu différent parce qu'il fallait faire vraiment des dialogues à partir de leur âge, quoi. Et avec eux aussi, quoi.
D'accord.
Donc, et puis je me suis rendu compte que du coup, après on en a beaucoup parlé, mais je dis, mais quand vous pouvez pas vous parler comme ça, quoi. Je me dis, ouais, mais tu te rends pas compte, nous, la vanne, c'est, on est né avec ça, c'est comme ça qu'on communique. Je dis, mais après, c'est pour ça que j'ai créé cette scène où on s'insulte avec la petite jeune, et en fait, elle s'aperçoit que quand elle s'adresse à moi et qu'elle m'insulte moi, même si c'est un jeu et un exercice, bah, c'est là qu'elle se rend compte de toute la force, c'est la violence des mots, quoi.
Ah oui, et des blessures potentielles.
Mais... Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de drames en ce moment dans les écoles et que...
C'est-à-dire que la vanne pour faire rire, c'est une chose, celle qui blesse et qui est une agression...
Ça peut être les deux, en même temps.
La frontière est fine. Ouais.
Voilà, mais en même temps, c'est aussi des vannes pour se défendre eux, parce qu'ils sont mal, donc...
Alors, ces ados sont les nouveaux venus dans Mince alors 2, sinon il y a le chœur, comme une troupe de théâtre que vous voulez absolument retrouver.
Ah ouais, moi j'adore la troupe en général, j'adore le côté...
La famille. Hors de question que Catherine Haussmann ne soit pas dans le film.
Ah ben c'est hors de question que Catherine n'y soit pas. C'est hors de question que Lola n'y soit pas. Là, on n'a pas trouvé le rôle pour Victoria cette fois-ci, mais elle sera dans le 3.
Voilà, l'annonce est faite.
Donc parce qu'il faut quand même faire. On peut pas non plus à chaque fois s'il y a pas de rôle vraiment forcer la chose. Mais Barbara Baloetner, par exemple, c'était génial aussi de la retrouver dans ce film-là. Et puis Marc Rizzo, par exemple, que je connaissais pas, qui est un acteur absolument génial.
Il y a des chances qu'il soit dans le suivant.
Eh ben, j'aimerais bien qu'il soit dans le film. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce que, et puis c'est rigolo de
faire évoluer. C'est le masseur, Marc Rizzo ?
Comment ?
C'est le masseur ?
C'est celui qui fait Sylvain. Et quant à Jean-Marc Otlinga, oui, celui qui fait le masseur.
Non, c'est Jean-Marc qui fait le masseur.
Alors, Jean-Marc qui fait le masseur et il fait aussi la thérapie. Ouais. Alors là, pour moi, c'est aussi une découverte formidable parce que non seulement il est extrêmement beau, non seulement il fait vraiment de l'éthologie dans la vie et il s'occupe vraiment de chevaux.
D'accord.
Vraiment, c'est son métier. Il a ses deux métiers, à la fois éthologue et acteur.
Oui, il y a beaucoup de scènes qui, justement, le rapport au cheval, à la confiance et à ce que l'on dégage finalement comme onde ou comme vibration et la peur du cheval ou pas, la confiance
exactement.
En soi ou pas.
Et que ça fait comme une espèce d'effet boomerang. Ben, quand vous vous retrouvez dans cette petite enclos avec un animal en liberté qui fait 600 kilos et que vous, avec lequel vous devez apprendre à communiquer, ben, c'est génial parce que c'est tout le travail qu'on a à faire chacun personnellement entre le lâcher prise et le contrôle. Et on est tout le temps en fait là-dedans, entre nos peurs, dominer nos peurs. Et si vous vous dites que le cheval, ça représente un peu vos peurs, ben c'est un super travail à faire. Moi, je l'ai fait. Et je l'avais fait une fois justement avec aussi avec un jeune homme qui était autiste. Et c'est un des souvenirs les plus émouvants de ma vie, de voir ce jeune garçon se mettre à sourire au contact de l'animal qui touchait comme ça. Car je lui disais prends ta main, je lui passais la main. C'était des moments extrêmement émouvants. Et quand j'ai vu ces petits jeunes qui viennent de la ville essentiellement et puis des cités ou des banlieues qui n'ont jamais vu un cheval pratiquement en vrai, ben c'était vachement émouvant aussi de les voir. Et puis justement Jean-Marc Otlingas pendant le confinement. Il faisait faire ça à plein de gens dans mon village et tout. Et c'était, je voyais à quel point ça faisait du bien à tout le monde et en particulier effectivement aux ados.
Mince, alors deux, le film que porte, vous l'avez entendu au plus profond d'elle-même, Charlotte de Turckheim, et qui sera au cinéma ce film mercredi prochain. D'autres événements dans la culture, Leïla.
Si je vous dis Weekend with Adele, Laurie, je parle de quoi ?
Un documentaire avec Adele, la chanteuse ?
Non, c'est pas un documentaire.
Le lot d'un cadeau.
C'est un cadeau à gagner.
C'est pas un cadeau non plus.
C'est un truc de Late Show ?
C'est pas un podcast, c'est pas un truc de Late Show.
Et c'est Adele, le titre du chanteur. C'est Adele la chanteuse ou pas ?
C'est Adele la chanteuse en effet. C'est un lieu mythique pour un rendez-vous mythique.
Voilà.
Est-ce qu'elle joue dans une...
Absolument. Oui. Las Vegas, c'est le nouveau spectacle de la chanteuse britannique.
C'est-à-dire qu'elle va,
qui sera donné au César Palace.
Elle va faire résidence là-bas, comme elle va rester des mois et des mois comme Céline Dion.
C'est pour remplacer
Céline
Dion.
Elle prend la suite de Céline Dion, qui était restée 15 ans.
Le meilleur des mondes.
Alors elle, pour l'instant, 15 ans, hein, Céline Dion, au César Palace. Incroyable. Et là, Adele va, elle, pour l'instant, enchaîner les concerts à partir du mois de janvier. Jusqu'à avril pour l'instant.
Ça commence tout
doucement, j'imagine.
Surtout elle.
Donc quand je suis arrivé à France Inter, j'ai dit c'est pour 2 ans.
Pareil.
47.
Un concert exceptionnel dans un lieu incroyable, forcément, ça peut valoir le déplacement pour les grands fans d'Adèle d'aller à Las Vegas.
Ça va coûter un bras en plus.
Ça peut coûter très très cher. Est-ce que vous avez, vous.
Un bras.
Un souvenir d'un concert inoubliable
auquel vous avez assisté parce que vous étiez majeur.
Ça compte pas.
Voilà, ça compte pas. Bon, oui, tout à l'heure.
Alors, je pense que c'est. Je pense que inoubliable, c'est quand même Madonna à Barcelone quand on est avec mes filles. Alors là, je dois dire que y aller avec. Justement, c'était extraordinaire.
Autant de voir Madonna que de partager ce moment avec
vous. Exactement. Autant que de voilà. Ce moment avec les filles qui étaient totalement fans et moi qui y allais un petit peu genre mais qui en fait était complètement prise par le spectacle. Je crois que j'étais encore plus. Je crois que j'ai tout acheté, le chapeau, le machin.
Le bustier.
Et qu'est-ce que vous êtes allé voir récemment en concert ? Vous êtes retourné voir des artistes ou
non.
Pas ? Ouais, toujours pas.
Non, toujours pas.
Parce que ?
Parce que pour être très honnête, pour ce moment, je privilégie le cinéma.
Ouais.
Parce que c'est une profession qui en a vraiment besoin.
Clairement.
Donc, chaque fois que je sors, en fait, c'est pour aider égoïstement ma profession pour le moment.
Bah, aller au théâtre aussi.
Et le théâtre aussi, ouais.
Autre question, quel est le point commun entre l'écrivain de best-seller, par exemple, Bernard Minier, ou encore Kylian Mbappé ?
Est-ce qu'ils font partie des enfoirés ?
Non.
Parce que ce sont des enfoirés.
Je rappelle, l'auteur de best-seller, Bernard Minier, ou encore...
Ils sont de la même ville.
Le chef d'orchestre national de France.
Ils viennent de la même région. Ils habitent la même ville.
Non. Ils se retrouvent...
Ils sont parrains d'une association.
Ils se retrouvent dans un annuaire.
Wouzou,
le Wouzou. Bravo, le Wouzou, absolument.
Ça existe encore ce truc-là.
Ça existe encore.
Comme ça existe encore.
Il y a à peu près 22 000 personnes répertoriées cette année.
Je suis dedans d'ailleurs.
C'est vrai. Et alors, une fois qu'on y est, on y reste.
Mais c'est quoi
j'ai pas été
pour les gens comme moi, les pleutres.
Non, il faut attendre qu'il te propose d'y être. J'ai ce même honneur et régulièrement on nous demande de rafraîchir entre guillemets les informations.
Ça, de réactualiser sur les informations.
J'explique pour.
On va changer de photo, Nagui.
C'est une sorte d'annuaire en fait où sont listés des gens qui. C'est une sorte de baromètre de la société. Il y a leur biographie qui est un peu développée. Alors le plus ancien dans le Wouzou, c'est René Deobaldia qui a 103 printemps quand même. C'est lui le plus âgé. Et ensuite, ils essaient un peu de rajeunir la moyenne d'âge. Donc, ils font de nouvelles entrées comme ça régulièrement au Wouzou, dont vous faites donc partie.
Et il y a un fœtus d'ailleurs.
Et vous le recevez chaque année ou pas ?
Merci beaucoup pour rajeunir la moyenne d'âge.
Vous le recevez chaque année ou pas ? Comment ça marche ?
Il faut l'acheter chaque année.
Il faut l'acheter
chaque année.
Absolument, ouais. Absolument. Vous avez déjà en tête le contexte, le cadre de Mince Alors 3. Vous vous dites déjà qu'il y a quelque chose à faire.
Oui, s'il y a quelque chose à faire, ça sera forcément autour du côté de justement des fils, des réseaux sociaux, des Dubai Girls, des Nabila.
Et de la chirurgie esthétique, des filtres Instagram et tout ça.
Ah ouais, ça me fascine quand même.
Des excuses à présenter.
Bien sûr, Déborah. Évidemment. Désolé déjà pour tous les proches de Charlotte de Turckheim qui ont été invités à son premier mariage. Et qui ont découvert ce matin qu'ils avaient uniquement servi à financer la prod de son premier spectacle. C'est pas clean, hein, mais bon, c'est malin. Je ferai pareil pour mon enterrement, ça va financer mon mausolée. Alors désolé pour les cons et les connasses qui se surkiffent et qui ont eu l'impression d'être moqués, molestés, insultés par Charlotte de Turckheim. Oh là là, non mais vraiment, pour penser ça, faut être un connard, hein. Bah oui, désolé. Désolé pour Nagui qui, il y a 20 minutes, a été quelque peu surpris quand Tanguy Pastureau lui a déclaré sa flamme de façon aussi brutal qu'inattendu.
Chaque rentrée de septembre, on a un peu envie de vous prendre.
Ah oui. En même temps, Nagui, je sais que vous êtes un individu ouvert et que oui. La perspective d'un nouvel univers érotique avec Tanguy ne vous laisse pas de marbre.
J'avoue.
Avec nous tous. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Noël, version Nagui et Michel. Désolé pour nos auditeurs qui ont détesté le tournant médical pris par l'émission de ce matin. Alors bon, c'est vrai que ce matin, c'était nutrition avec le docteur de Turckheim. Et ben demain, on continue, mais ce sera examen de prostate avec Patrick Mill.
Merci Daniel, merci Charlotte de Turckheim.
Bravo.
Et bravo pour ce Mince Alors 2 avec Catherine Osmalin, Lola Deverge, Charlotte Gassiot, Marc Rizzo, Patrick de Lavalette, Johanna Piaton de Turckheim, Barbara Bolotner, Angelina Bertrand Gomez, Sabri Gazala, Brice Verger-Doucy, Charlotte Debeka et Jean-Marc Hotelet.
Hotlinghaus,
le beau gosse. Et vous, bien sûr, à la tête de toute cette bande, portez-vous bien, bonne fête et bonne sortie de film.
Merci à vous.
Merde, comme on dit pour le film.
Et
ça
bonne
sera
fête à vous tous.
Mercredi prochain au cinéma. À demain.